Un concert qui a été capté en décembre dernier. Alors il nous parlera justement de ses liens avec cette maison et cette ville où il a déjà posé ses valises. Et puis nous retrouverons ensuite, comme tous les jeudis, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, avec qui nous nous évaderons à Liège cette semaine. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Les musiciens classiques élèvent leur voix pour soutenir le peuple iranien face à la terrible répression. Les réactions d'indignation et de soutien se multiplient dans le monde entier, notamment de la part de musiciens exilés d'origine iranienne. Parmi eux, le violoncelliste Kian Soltani, qui à l'occasion de son concert à la Philharmonie de Paris il y a quelques jours, a joué un air traditionnel du compositeur Reza Vali, qu'il a dédié au courageux peuple iranien qui se bat pour un pays libre. Et puis sur les réseaux sociaux, le claveciniste et chef iranien Mahan Esfahani, exilé aux États-Unis, s'est exprimé lui aussi sur la situation dans un long message. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site et sur l'appli de Radio Classique. L'Opéra de Dijon entame une toute nouvelle collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de la ville. Une série de concerts se tiendra ainsi dans la salle des tombeaux où est exposé un spectaculaire triptyque du peintre Yan Peiming. Coup d'envoi de cette série ce dimanche avec un concert de l'ensemble Les Épopées de Stéphane Fuget en compagnie de la soprano Claire Le Filiatre. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre du projet artistique porté par la nouvelle directrice de l'Opéra de Dijon, Antonella Zeda, projet intitulé « Le cœur battant » visant à renforcer les collaborations entre les différentes institutions culturelles de la ville et à favoriser ainsi les dialogues artistiques. Et un coup d'œil sur l'actualité discographique marquée notamment par la publication demain d'un nouvel album de Piotr Andershevsky dédié à Brahms, au dernier et si touchant opus pianistique brahmsien. Un Brahms profondément intime, douloureux, tendre et mystérieux. Des pages que Piotr Andershevsky jouera dans le cadre de son grand récital parisien le 2 février à la Philharmonie de Paris. De l'opus 116 de Brahms sous les doigts de Piotr Andershevsky. Un extrait de cet album apparaîtra demain chez Warner. Piotr Andershevsky qui sera en récital le 2 février à la Philharmonie de Paris et qui, d'ici là, sera notre invité à la fin du mois dans le Journal du Classique.
L'Or Maison, sur Radio Classique.
Il sera le prochain directeur musical de l'Opéra de Rouen. Il succédera ainsi à Ben Glasberg la saison prochaine. Pierre Dumousseau dirigeait le 5 décembre dernier l'orchestre de l'Opéra dans un somptueux programme aux accents russes, capté par les micros de Radio Classique et que nous diffuserons dimanche à 20h. Alors c'est juste avant ce concert qu'il est venu échanger quelques mots à notre micro pour nous raconter son histoire avec cet orchestre et ses projets à venir. Des musiciens qu'il connaît déjà pour certains depuis presque 10 ans.
Aujourd'hui, l'Opéra Orchestre Normandie Rouen recouvre plusieurs entités, plusieurs phalanges, dont celle qui fut naguère l'Orchestre Régional de Normandie, que lui j'ai rencontré en 2016 pour une tournée. Donc j'arpentais déjà la région avec eux il y a une dizaine d'années. Mais donc oui, en ce qui concerne l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, je les ai rencontrés en 2018 pour une Madame Butterfly. Et ensuite, je suis venu assez régulièrement pour du symphonique, pour d'autres opéras. Je pense à un Péléas confiné qu'on jouait dans la salle au lieu de sur la scène. Je pense à Roméo et Juliette, il y a quelques années. Beaucoup de très beaux souvenirs dans ce théâtre, oui.
Mais le fait, justement, que ce soit un orchestre qui joue aussi bien dans la fosse que sur scène, c'est important pour vous, vous qui êtes à la fois un chef lyrique et puis qui vous exprimez dans le domaine symphonique.
Vous avez tout dit, c'est fondamental. Pour moi, je ne pourrais me passer ni de l'un ni de l'autre exercice. J'aime suprêmement ce petit frisson d'être caché derrière le mur de la fosse au service d'une œuvre gigantesque qui nous dépasse tous, d'une œuvre d'art total et qui fait appel à tant de corps de métier conjugués, réunis et harmonie. Et en même temps, c'est un exercice fondamental pour un musicien de se retrouver au centre de la scène aussi et de s'exprimer pour soi.
Alors ici, vous êtes, ce soir, vous êtes sur scène pour diriger ce programme, un programme symphonique, un programme russe, un programme très narratif puisqu'il fait référence à Shakespeare, il fait référence également aux légendes des Mille et Une Nuits. Est-ce que le fait justement de diriger ces pages, Pierre Dumousseau, avec un orchestre qui a l'habitude de raconter des histoires puisqu'il fait de l'opéra, permet d'aller encore plus loin dans la suggestion, dans la narration et de faire ressortir toutes ces couleurs?
Cher Laure, vous m'avez percé à jour, c'est une triche évidemment, pour moi qui suis une bonne partie de l'année un musicien de fosse au service d'œuvres littéraires la plupart du temps, ou alors inspiré d'œuvres picturales, ou en tout cas au service d'une dramaturgie. Effectivement, le support d'un narratif dans une œuvre, c'est quelque chose qui aide. Alors en vérité, le narratif, il nous incombe aussi de le trouver, de le chercher, de le raconter ou de l'inventer dans la musique dite pure. Donc j'aime pratiquer ces deux pans-là de la musique. Mais oui, c'est sûr que Les Mille et Une Nuits, Shakespeare, voilà des sources d'inspiration acceptables.
De la musique russe, Tchaïkovski, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, vous avez dirigé il y a peu Yolanta à l'Opéra de Bordeaux. Vous êtes dans un élan russe en ce moment?
Un automne russe, j'ai fait au Japon ma première symphonie de Shostakovich, mon premier Oiseau de feu, un peu de Prokofiev aussi. J'avoue que la perspective de ce Yolanta à l'Opéra de Bordeaux m'a fait m'intéresser et travailler la langue russe. C'est un monde qui s'est ouvert à moi. J'avoue que j'avais pas conscience moi-même, parce que évidemment quand on pratique les langues romanes ou européennes, en tout cas, il y a des choses auxquelles on s'identifie, des choses auxquelles on se raccroche dans l'un et l'autre langage, même si on le comprend pas totalement. Mais là, plonger dans un alphabet nouveau des origines qui me sont parfaitement inconnues, ça a été un vrai dépaysement pour moi. Et donc j'ai dû m'y consacrer pleinement. Et voilà, à la faveur de ce travail sur la langue, ça a été vraiment très 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 enrichissant pour moi. D'aborder ces grands classiques en plus du répertoire symphonique.
Oui. Oui, parce que la langue influence aussi l'écriture instrumentale. Est-ce que le fait de connaître le russe, en tout cas quelques bases de russe, vous permet aussi peut-être de comprendre un certain lyrisme, des couleurs particulières de la musique russe, y compris symphonique?
Je crois à la langue et la culture aussi. Je pense là spontanément aux premières mesures du Roméo de Tchaïkovski. On sait qu'on est à Vérone, on sait que c'est le frère Laurent dont il s'agit, qui a priori est plutôt un bon chrétien. Et pourtant, on entend dans la manière dont est écrite la musique et dans la manière dont elle résonne que c'est d'une autre inspiration dont est bercé Tchaïkovski. Et on entend des couleurs qui sont franchement orthodoxes, franchement plus hivernales. Et quand on a pratiqué la langue et qu'on a en tête ces sons, ces phonèmes qui sont beaucoup plus gutturaux, ces voyelles qui sont différentes, avec beaucoup de nuances de i, de e, de sons vraiment qu'il faut aller chercher dans des régions du corps inconnues pour nous. Ça aide aussi, je trouve, à faire du phrasé dans la musique. Quand on comprend que les consonnes sont pas les mêmes et que la manière de prononcer un D, un T, un G est différente et peut-être moins directe, bah, on interprète la musique différemment aussi.
Frissons de Tchaïkovski, le début de sa fantaisie Roméo et Juliette par l'orchestre de l'Opéra Normandie-Rouen, dirigé par Pierre Dumousseau en concert le 5 décembre dernier à l'Opéra de Rouen. Un concert à revivre dimanche soir sur Radio Classique. Des musiciens que Pierre Dumousseau retrouvera au printemps, au mois d'avril, pour diriger un spectacle autour de Bizet avec l'Arlésienne et le Docteur Miracle, et dont il sera à la rentrée prochaine le directeur musical. Alors comment envisage-t-il ce rôle ? On écoute Pierre Dumousseau.
Moi je me sens bien quand je passe les portes de ce théâtre, grâce à l'exigence que je sens ici, c'est-à-dire qu'il y a une vraie exigence de cet orchestre vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des gens avec lesquels il travaille, et une vraie ambition artistique. On était tout à l'heure en discussion avec certains musiciens, pour ne rien vous cacher, et qui demandaient plutôt davantage de répétitions, davantage de travail. Et moi, ça m'a réjoui dans une maison où on a envie de faire le mieux possible, et quand on l'a atteint, faire encore plus.
Alors c'est un orchestre qui a fait fusionner différents ensembles et qui maintenant, aujourd'hui, se développe à travers plusieurs formats différents. Un orchestre symphonique, un ensemble et puis des musiciens aussi en musique de chambre. Ce qui vous permet, Pierre Dumousseau, d'inventer quelque part une programmation encore plus diversifiée.
Oui, je crois que c'est la grande chance qu'on a dans cette histoire de fusion, qui évidemment a été un processus long et assez inédit. Donc il a fallu du courage pour l'entreprendre, de la part des équipes bien sûr qui ont travaillé, de la part des musiciens qui tous ont dû trouver un terrain commun. Et aujourd'hui encore, c'est un chantier qui est en cours évidemment. La grande chance, c'est que on va pouvoir pratiquer ensemble un répertoire qui est nouveau pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire que les musiciens de l'Orchestre Régional de Normandie, qui étaient 16, tout autant que l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, qui était plutôt une quarantaine, vont se retrouver sur un répertoire symphonique élargi et vont pouvoir avoir le plaisir, je crois comme ce soir pour Scheherazade, d'interpréter ensemble pour la première fois certains grands titres du répertoire symphonique. Ça, je crois que c'est vraiment une grande chance. Et puis, on a un territoire immense et merveilleux qui s'étend à nous. avec donc, vous l'avez dit, une sorte de poupée russe. On a un orchestre d'opéra, on a un orchestre symphonique qui est flamboyant, on a une formation qui est un peu plus un orchestre classique, on a un ensemble qui peut voyager n'importe où, on a tout un tas d'entités de musique de chambre, on a certains de notre solistes qui peuvent se produire en soliste justement avec leur orchestre, nos violons solos qui peuvent faire du whist dirigé avec leurs collègues. Je trouve qu'on a vraiment une palette de possibilités maintenant qui est absolument réjouissante.
Alors, quels sont vos autres objectifs avec l'orchestre dont vous prendrez les rênes, Pierre Dumousson, en septembre 2026? Alors, je sais que vous n'allez pas me communiquer ce soir votre première programmation musicale, mais quelles sont vos grandes idées, vos grands axes de répertoire?
Ce que je peux vous dire, c'est que je prends mes fonctions dans un an et que pourtant je vis à Rouen depuis cet été. Ça vous paraîtra peut-être anecdotique, mais pour moi, c'était vraiment important de venir m'installer ici. Et je pense que c'est difficile de travailler sur le son d'un orchestre, ce qui est vraiment le fond de ma fonction, sans connaître les êtres humains qui le façonnent. Et donc, depuis un an déjà que ma nomination a été annoncée aux musiciens, j'essaie vraiment le plus possible d'aller rencontrer les gens, d'aller rencontrer les musiciens, mais pas que, d'aller rencontrer les équipes, d'aller rencontrer les représentants et d'essayer de comprendre un peu quelles sont les forces qui s'attirent, celles qui peut-être s'opposent un peu plus dans cette maison qui maintenant est très large et très complexe et très riche. Et pour moi, être là et venir écouter les concerts quand je ne dirige pas, c'est quelque chose de fondamental, vraiment pour façonner le son d'un ensemble. D'abord, on peut pas le faire uniquement quand on est sur le podium, parce qu'on est presque à la plus mauvaise place pour entendre comment un orchestre sonne quand on est placé là. Et puis aussi, il faut voir comment ces gens interagissent avec d'autres chefs, s'enrichir des méthodes de travail des autres, voir à quel moment il se passe quelque chose et pourquoi, et essayer de capitaliser là-dessus, ça n'arrêtera jamais de m'enrichir.
Oui, c'est toute la diversité, la profondeur du rôle de directeur musical que vous allez endosser à partir de septembre. Vous allez diriger dans la fosse et sur scène dès la saison prochaine?
Bien sûr, pourquoi pas. bien sûr, dans la fosse, sur scène, et pas seulement sur cette scène. On a commencé déjà à arpenter la région et à arpenter le territoire national aussi. Là sont nos ambitions et peut-être même au-delà, qui sait.
Thank you.
ensorcelante élégie de Massenet chantée par Hélène Guillemette avec l'orchestre de l'Opéra Normandie-Rouen, dirigé par Pierre Dumousseau. Un extrait d'un album tout juste publié par le Palazzetto Brusane, consacré aux mélodies avec orchestre de Massenet. Le Palazzetto Brusane, avec lequel Pierre Dumousseau collaborera de nouveau au mois de mai, puisqu'il dirigera, alors ce sera à l'Opéra de Bordeaux, La Montagne Noire d'Augusta Holmès. Augusta Holmès, l'une des rares compositrices françaises du 19e siècle à avoir vu l'une de ses œuvres créée sur une scène lyrique française. C'était en 1895, donc avec cette Montagne Noire. Un ouvrage que le Palazzetto Brusane nous invite donc à découvrir. Pierre Dumousseau nous en dit quelques mots.
J'ai vraiment hâte de présenter ça à tout le monde avec les équipes du Palazzetto. C'est un compagnonnage qui m'est cher. J'espère qu'on va en faire un bel objet, mais j'en suis assez convaincu.
C'est une œuvre assez monumentale, je crois, non ?
Oui. On sera dans la fosse de l'auditorium de Bordeaux, qui est un outil assez merveilleux aussi, qui est assez peu utilisé et qui nous permet d'avoir un orchestre plus que wagnérien pour s'amuser un peu.
Et vos fonctions de directeur musical de l'Opéra du Rouen vous permettront, Pierre Dumousseau, de continuer ses relations avec d'autres grandes maisons européennes et de tisser des liens même avec de nouvelles institutions?
Je l'appelle de mes voeux, d'abord pour pas rayer la page précédente avant d'écrire la nouvelle. Le Bordeaux, c'est l'orchestre dans lequel je me suis construit, dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai appris mon métier. Et je suis vraiment, en tant qu'humain, c'est quelque chose de fondamental pour moi, la fidélité qu'il me témoigne. Et donc j'ai envie de continuer à aller arpenter des répertoires qui sont pas forcément les miens là-bas. Et oui, bien sûr, il n'y a pas que Bordeaux. Même pour la santé de tout le monde, c'est mieux si je suis pas trop sur le dos des musiciens de Caen et de Rouen non plus.
quelques notes du Scheherazade de Rimsky-Korsakov que vous pourrez entendre dans son intégralité dimanche soir sur Radio Classique, interprété par l'Orchestre de l'Opéra Normandie-Rouen sous la direction de Pierre Dumousseau. Pierre Dumousseau qui est actuellement à Zurich pour diriger une production des Noces de Figaro de Mozart qui sera présentée du 24 janvier au 14 février. Il retrouvera ensuite une autre fosse, celle de l'Opéra de Berlin pour les Contes d'Hoffmann d'Offenbach, mais dans une version différente de celle qu'il a dirigée cet automne à l'Opéra Comique. Et puis les 10 et 11 avril, à l'Opéra de Rouen, il reviendra pour diriger l'Arlésienne et le Docteur Miracle de Bizet, avant de nous faire découvrir cette montagne noire d'Augusta Holmès au mois de mai à Bordeaux.
Le coup de cœur de la Croix, avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
C'est à Liège que vous nous emmenez cette semaine.
Exactement, pour rendre hommage à l'un des enfants du pays, natif de la ville, André Ernest Modeste Grétry. Et c'est un projet particulièrement agréable à présenter. D'abord parce qu'une ville, donc celle de Liège en Belgique, y honore l'une de ses gloires locales, ce compositeur Grétry, né le 11 février 1741 et dont la statue trône d'ailleurs devant l'Opéra de Liège. La deuxième raison, c'est que cet hommage est rendu sous la forme très appréciable et très appréciée d'un opéra participatif destiné aux jeunes et à leur famille. Et la troisième, c'est parce que l'Opéra de Liège a confié la baguette de chef d'orchestre à Matteo Dalmaso, un musicien italien né en 1997 et qui avait obtenu le deuxième prix du concours international destiné à la direction musicale d'ouvrages lyriques, compétition qui a été créée par l'Opéra de Liège, l'Opéra de Wallonie. Et Matteo Dalmaso avait d'ailleurs remporté également le prix du public. Donc, du 14 au 18 janvier, l'ouvrage sans doute le plus connu de Grétry, Richard Cœur de Lion, faisait hier et fait encore l'objet jusqu'au 18 d'une adaptation accessible à tout spectateur petit ou grand. La mise en scène est assurée par Quentin Vastils. Alors, une mallette pédagogique et 5 extraits de l'œuvre ont été mis à disposition du public pour qu'il travaille et qu'il s'immerge dans l'univers théâtral et surtout musical de cet opéra. Et le jour J, depuis la salle, qu'il puisse donner de la voix avec les artistes professionnels sur le plateau. Toute une journée spéciale est aussi proposée le 18 janvier avec des ateliers intitulés Troubadour Time, Dance avec un C au donjon ou Grétry c'est parti, parti avec un Y. Donc Grétry à la mode des années 2020. Quel programme!
Alors Emmanuel, comme on ne voit pas tous les jours Richard Cœur de Lion,
c'est sûr.
Pouvez-vous peut-être nous en rappeler l'intrigue ?
Oui, on est en plein opéra historique où la politique, l'aventure et l'amour tissent une toile commune. On y rencontre le roi Richard d'Angleterre, le fameux Cœur de Lion, retenu captif dans une sinistre forteresse par quelqu'un de tout aussi sinistre, le redoutable Florestan, mais le fidèle, le loyal Blondel, qui est un troubadour sans crainte de l'adversité, va chercher du renfort auprès de partisans de Richard, et notamment Sir William et sa ravissante fille Laurette. Ensemble, ils échafaudent un plan plein d'astuces pour piéger le méchant Florestan et libérer enfin leur roi au cœur de lion. Après une création qui fut un peu difficile en 1784, l'opéra que Grétry a remanié a connu dès l'année suivante un très grand succès et qui ne s'est pas démenti tout au cours du 19e siècle. Il faut dire qu'il recèle de mélodies au délectable parfum, comme l'illustre notamment l'air de Laurette, sur lequel nous allons nous séparer dans quelques secondes, je crains de lui parler la nuit. Un air tellement emblématique de cette musique de l'Ancien Régime que Tchaïkovski l'a d'ailleurs repris dans La Dame de Pique pour le faire chanter à cet aristocrate qui se rappelle ses belles années à la cour de Versailles. Et puis un autre air, chanté par le troubadour Blondel, au Richard, au Mont-Roi, servi aussi pendant la Révolution d'emblème aux royalistes. Donc on voit que le sort de Grétry fut vaste et une belle occasion de le redécouvrir. Découvrir aujourd'hui, et là c'est la merveilleuse Christiane Hedda Pierre qui se mettait donc dans la peau de cette charmante Laurette. Pourquoi puis-il prendre
L'air de Laurette de Richard Cœur de Lion, de Gretry, chanté par Christiane Edapierre avec l'Académie of St. Martin in the Fields et Neville Mariner. Merci beaucoup Emmanuel pour ce voyage au pays de Gretry, à l'Opéra de Liège. Et à la semaine prochaine.
Oui, bien sûr, avec joie.
Merci à Lucille Metz pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de la chef d'orchestre Alondra Della Parra qui viendra nous présenter un spectacle alliant musique et l'art des clowns. Très belle suite de soirée en musique à l'écoute de Radio Classique et à demain 20h.
Radio Classique. La musique avant tout.
Minuit. Votre soirée classique sur Radio Classique.